Je vous invite à venir devant Dieu avec moi. Je te prie, Père, pour que l'exposé biblique de ce matin et les discussions qui s'en suivront dans les semaines à venir contribuent à nous rappeler qu'en ton Fils Jésus-Christ, nous sommes libres. Aide-nous à comprendre en quoi consiste cette liberté. Nous te demandons que tu éclaires notre intelligence pour que nous puissions, avec l'aide et par la force de ton esprit, identifier et éliminer ce qui dans nos vies fait obstacle à cette liberté. Liberté qui nous appartient de droit parce que nous appartenons à Christ. Nous sommes toutefois conscients que ta réponse à la prière que nous venons de faire ensemble pourrait avoir comme effet que tu nous invites à nous détourner de certaines manières de penser, de faire et d'être qui sont discordantes avec l'esprit de liberté qui vit en nous. Nous te disons donc, Seigneur, que nous voulons écouter ta voix et revenir à toi sur ces territoires spécifiques de nos vies que nous avons laissés envahir par les forces qui s'opposent à la liberté acquise par Christ pour nous qui avons cru en lui. Il paraîtrait que lorsque l'esclavage a été aboli aux États-Unis, certains maîtres d'esclaves se sont réunis pour essayer de trouver une solution au problème qui devenait leur problème et que certains d'entre eux se seraient dit « c'est pas grave, on leur dira pas qu'il y a une loi qui a été passée et qui a aboli l'esclavage. » Alors, s'ils ne le savent pas, bien, tout va continuer comme avant. Mais c'était un peu plus compliqué que ça, parce que là, il y a quelqu'un parmi les maîtres d'esclaves qui a dit « Oui, mais quand ils vont l'apprendre, malgré qu'on va essayer de tout faire pour qu'ils ne l'apprennent pas, qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont l'apprendre? » Là, il y a quelqu'un qui dit « C'est pas grave. » On va leur dire que ça ne s'applique pas à leur cas particulier et que ce n'est pas dans notre région et pas dans nos circonstances et pas pour eux personnellement. Et en plus, on va convaincre certains d'entre eux que ça ne s'applique pas et on va laisser la rumeur se propager que ça ne s'applique pas. Donc, tout va être comme avant. La liberté en Christ, c'est un peu comme ça. Ce que je comprends, ce que je comprends des Écritures, c'est que la liberté en Christ fait partie intégrante du salut en Christ. Les passages qui ont été lus ce matin, quand Jésus cite, et ceux qui ont vu le film « Le Messie », c'est le titre du nouveau film sur Jésus, le Fils de Dieu. Ceux qui ont vu le film, le Fils de Dieu, on voit Jésus dans la synagogue de sa ville natale, qui lit le rouleau de Ésaïe, qui a été lu tout à l'heure, et qui dit ensuite, dans le texte de Luc 4, qui dit ensuite, aujourd'hui cette parole est accomplie. Et dans Ésaïe, la liberté était là. Alors, bon, ça c'est comme le contexte théologique de l'étude de Romains sur la liberté, parce que dans Romains, moi j'ai basé les propos de ce matin principalement dans ma lecture de l'Épître aux Romains, complétée par plusieurs autres passages qui traitent de la même chose, mais ce que je vois, c'est que le salut et la liberté sont indissociables, la liberté en Christ. Et je vais vous lire tout à l'heure quelques passages qui vont dans ce sens-là. L'objectif de mon exposé de ce matin et l'objectif que je vous propose de garder présent à l'esprit dans vos préparations pour les discussions de groupe à titre de participant ou d'animateur. L'objectif que je vous propose, c'est de nous aider à mieux comprendre en quoi consiste notre liberté chrétienne et à nous réapproprier les secteurs de liberté qui ne sont pas dans notre expérience quotidienne maintenant. Donc, pour comprendre et vivre... Je continue à cogner, hein? Excusez-moi. Non, je ne cogne pas, OK. C'est beau, tu me feras signe. Pour comprendre et vivre notre liberté, j'aimerais vous inviter à réfléchir aux questions suivantes tout au long du mois, et je vais lancer le questionnement ce matin. J'ai 6 questions regroupées par groupe de 2. Donc, premièrement, par qui et comment avons-nous été libérés? Je trouve ce que je vais vous lire tout à l'heure est inspiré de Romains 1 à 3, principalement sur ces deux questions-là. Ensuite, question 3, de quoi avons-nous été libérés et vers quoi avons-nous été libérés? Je vais rentrer dans ça seulement tout à l'heure. Et les deux dernières questions, le troisième groupe, questions 5 et 6, sommes-nous libres et comment reprendre le territoire perdu de notre liberté? Paul situe Christ comme source de l'Évangile. C'est bien évident, mais c'est clair dans Romains chapitre 1, dans les tout premiers versets, que l'Évangile dépend de Christ. C'est important, c'est pas juste des mots. L'année passée, j'ai enseigné ici sur Habacuc, la foi au maître de l'univers dans Habacuc. Et ce que je disais, c'était, une des choses que je disais, c'était que notre foi en tant que telle n'a pas une valeur par sa grandeur ou par sa force, mais qu'elle dépend de l'objet vers lequel elle est dirigée, le maître de l'univers. Alors, lorsque l'on considère qui a acquis notre liberté, eh bien, c'est le maître de l'univers, Jésus-Christ, fait homme, mort sur la croix, ressuscité. C'est de lui que nous avons obtenu cette liberté. Et de quelle façon, comment l'avons-nous obtenue? Je vais vous lire Romains 3. J'ai écrit dans mon texte ici un extrait de Romains 3, versets 21 à 25. Et j'aimerais que vous soyez attentifs. Le qui nous a acquis la liberté, comment a été acquis la liberté et quelle est notre participation à l'obtention de cette liberté. Je trouve tout cela dans Romains 3, le passage que je vais lire dans un instant, et plusieurs n'ont pas la même traduction de la Bible ici. Alors, le mot « rédemption » dans certaines Bibles est traduit dans d'autres Bibles par le mot « libération » et dans d'autres Bibles par le mot « délivrance », parce que c'est la même chose. La rédemption, c'est un mot français plus proche de l'original qui veut dire « tu vas au marché et tu rachètes quelqu'un qui est prisonnier, quelqu'un qui est esclave et tu le libères ». Alors moi, je vais lire ici dans la seconde 21. Mais maintenant, c'est Romains 3, 21 à 25, « Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération. » Par le moyen de la rédemption, par le moyen de la délivrance qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il importe d'observer que la justice dont il est question ici est celle de Christ. Nous sommes déclarés justes par le sacrifice de Christ. Ce n'est pas notre justice. Nous sommes rachetés par Dieu et rendus libres au prix du sacrifice de la croix. Alors, cela répond en partie aux questions par qui avons-nous été libérés et comment avons-nous été libérés. En partie seulement parce que rien de cela ne se produit sans notre participation. On le voit dans le passage que je viens de lire, notre participation, c'est la foi. On le voit aussi en Romains 1, versets 16 et 17, où on peut comprendre que cet évangile de Christ est puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit. Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, ce qu'en avait dit Habacuc et que Paul cite en Romains 1, 17, « Le juste vivra par la foi ». Alors, ce n'est pas seulement au moment où nous nous convertissons que nous acquérons le salut et la liberté qui vient avec. C'est une démarche de foi au quotidien. Alors, si nous perdons parfois des territoires de liberté, eh bien, il est important de revenir à une démarche de foi je vais revenir là-dessus. Alors, c'est beau, nous sommes rachetés, nous avons été rachetés, nous avons été libérés, mais de quoi a-t-on été racheté? De quoi a-t-on été libéré? Arraché à quel esclavage? Pour obtenir quelle liberté? Par ce même moyen de la mort de Jésus et de notre foi. Car notre participation de foi ne s'arrête pas à l'instant, c'est ce que je viens de dire, initial de cette libération, mais se poursuit chaque jour dans le maintien ou la réappropriation de notre liberté. Donc, par qui avons-nous été libérés? Nous l'avons traité. Comment avons-nous été libérés? Nous l'avons vu aussi. Ça nous conduit à la question, libérés de quoi? Certains, et là, j'ai comme fait une petite synthèse que je vais vous lire de ce que je trouvais dans Romains 1 et dans Romains 2. Dans Romains 1, je ne vous le lirai pas, je vais vous le dire. Là. Dans Romains 1, on a beaucoup de gros péchés, très évidents. Puis dans Romains, alors ça c'était moi, avant de me convertir, c'était très évident. Et alors ma conversion nécessitait une prise de conscience et une transformation radicale immédiate. Romains 1. Mais dans Romains 2, puis certains d'entre nous, étaient moins des pécheurs impliqués dans des contextes de vie qui rendaient évident leur besoin de conversion. Alors, mais d'une part ou d'autre part, nous avons été libérés. Et l'Évangile dont l'Épître aux Romains nous fait part s'adresse autant aux gens qui ne connaissaient pas du tout les Écritures ou qui vivaient complètement selon des standards extérieurs à toute forme de christianisme et aussi à ceux qui vivaient ou qui vivent selon des bons principes puisés dans l'héritage chrétien. Mais d'un côté ou de l'autre, Christ est mort pour nous libérer, pour nous racheter. Lorsqu'on considère les chefs religieux à l'époque de Jésus, combien ont vu le film Le Fils de Dieu? Pas beaucoup? OK. En tout cas, vous avez lu la Bible, alors c'est dans la Bible aussi. mais le film rendait ça tellement évident. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de films sur Jésus qui ne sont pas proches des Écritures. Celui-là, je le trouvais quand même bien fait pour illustrer les textes bibliques. Et on voit dans ce film-là et dans les Écritures que les chefs religieux, au fond, ils se préoccupaient aucunement de la justice. Ils se préoccupaient de l'effet politique de leurs actions. Alors, ils ont livré Christ aux Romains en leur demandant de le crucifier. La question, ils agissaient simplement de manière conforme aux façons de raisonner et aux façons de penser de leur époque pour les chefs religieux et pour les gens aussi qui étaient dans des positions de leadership ou de direction. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que nous, notre manière de raisonner, notre manière de penser est plus conforme à la manière de raisonner et à la manière de penser du monde ou est plus conforme à la manière de raisonner et de penser de l'esprit auquel nous sommes invités dans les Écritures? Si les chefs religieux avaient eu une façon de penser et de raisonner qui était conforme aux Écritures, ils n'auraient jamais livré Christ aux Romains. bon, on les regarde avec sévérité, mais finalement, je trouve que d'une manière ou d'une autre, on est tous partie prenante au magouillage qu'on se fait dans notre tête et qui concerne notre façon de vivre indépendamment de Dieu, en faisant semblant qu'on n'est pas complètement indépendant, mais qu'on a nos limites. Bon, on se donne toutes sortes de jeux. Mais c'est de tout cela que nous avons été libérés de la mort de Christ. Et si on regarde Romains 1, par exemple, verset 18, « Nous avons été libérés de l'injustice qui tient la vérité captive. » Romains 1, 21, « Nous avons été libérés des raisonnements qui plongeaient nos cœurs sans intelligence dans les ténèbres. » Romains 3, 9 et 3, 14, « Nous avons été libérés de la domination du péché. » Vécu comme l'emprise sur soi de l'amertume exprimée par une compulsion à maudire. Là, si je prends mon expérience personnelle, je dirais que couche par couche, j'ai été libéré au fil des ans des points suivants, et ça c'est dans les notes, je l'ai consigné dans les notes. Libéré de l'illusion de n'avoir jamais offensé Dieu, parce que je trouvais que c'était pas grave, moi, à faire ce que je faisais, c'était correct. C'était le Peace and Love des années 70. Je trouvais ça magnifique. Mais un jour, j'ai été libéré de l'illusion de n'avoir jamais offensé Dieu. J'ai aussi fini par être libéré des péchés grossiers et évidents qui sont décrits dans Romains 1 et dans Romains 3. J'ai également, peu à peu, été libéré, je dis « je », mais je pense que ça s'applique à certains d'entre nous, mais pas toujours dans le même ordre ou de la même façon. J'ai été libéré de faux péchés ou d'interdits qui ne trouvent aucun fondement dans les Écritures. J'ai aussi été, comme par une couche à la fois, libéré d'obligations que les Écritures ne m'enseignent pas. Romains 14, Colossiens 2 nous invite aussi à réfléchir dans ces termes-là. J'ai été libéré de la tyrannie des circonstances, c'est-à-dire que parfois les circonstances de nos vies sont vraiment lourdes. Et Romains 8, 28 nous dit qu'on peut vivre la paix malgré les circonstances extrêmement lourdes. J'ai été libéré des pensées opposées à celles de l'esprit. J'ai été libéré, ça m'a pris du temps à comprendre ça, de ma confiance envers ma maturité chrétienne à venir. Je me disais, un jour, je vais être mature. Puis jamais j'étais mature. Alors je me suis dit, Dieu ne s'occupe pas de moi, il ne répond pas à mes prières, il est infidèle envers moi. Bon, là, ça a duré très longtemps, cette phase-là. Mais je me disais, il y a de quoi que je n'ai sûrement pas compris. Effectivement, il y avait de quoi que je n'avais pas compris. Ensuite, je dis bien, libéré de notre confiance envers notre propre maturité chrétienne ou acquise. Parce qu'à un moment donné, les choses se sont placées dans ma vie. Et là, lorsqu'il y avait des contradictions entre cette maturité-là et ce que je faisais ou disais ou pensais, je me disais, mais voyons, ça ne marche plus. Et là, j'ai compris que jamais il ne faut placer notre confiance dans notre... C'était pas prévu. Dans notre maturité espérée ou acquise. Mais toujours, il faut placer notre confiance en Christ qui agit en nous, des êtres qui toujours demeureront pécheurs, toujours, mais qui toujours, à chaque fois que nous péchons, nous avons accès auprès du trône, immédiatement, pas demain matin durant mon culte. Ouais, OK, mais tout de suite aussi. Alors, libéré de notre confiance envers notre propre maturité chrétienne, anticipée ou acquise, même par l'obéissance sincère aux Écritures. Ça, c'est vraiment important parce que des fois, on juge les légalistes, c'est les autres, les légalistes, c'est des gens qui n'ont pas bien compris les Écritures puis qui essayent de l'appliquer, c'est des légalistes. Ouais, mais moi, ce n'est pas ça qui m'a aidé à comprendre. C'est qu'il ne faut pas faire confiance dans notre croissance chrétienne, mais dans Christ qui va nous faire croître. Et oui, on va devenir mature si on lui fait confiance, mais il y a un piège qui réside en plein cœur de cette maturité-là ou de cette obéissance-là. C'est à partir du moment où on se met à se trouver mature ou à se trouver immature puis à se décourager de notre immaturité. C'est pas ça. C'est Christ en qui nous devons faire confiance. Donc, libéré de quoi? Je l'ai bien traité. Et les notes appuient cela. Libéré vers quoi maintenant? Romains 8, le passage de Romains 8 a été lu tout à l'heure. Libéré de quoi? De quelle vie avons-nous été libérés? C'est ce que nous venons de voir. Vers quelle vie avons-nous été libérés? Les deux questions sont indissociables quand on examine notre liberté en Christ. Le texte que je vais vous lire ici maintenant, en essayant de ne pas trop le lire mot à mot, là, c'est un résumé de ma compréhension de Romains 8, de Romains 6, de Romains 5, appliqué au thème de la liberté et à la compréhension que j'en ai. Donc, vous pourrez vérifier, lire vos Bibles à la lumière de ce texte-là. Mais là, pour le moment, je vais simplement lire mon texte et peut-être vous indiquer rapidement, en cours de route, les versets auxquels se rattachent les déclarations que je fais. La glorieuse liberté d'enfant de Dieu, dont parle Romains 8, 21, la glorieuse liberté d'enfant de Dieu dont nous jouissons d'un avant-goût, les prémices de l'Esprit, Romains 8, 23, implique que nous sommes libres de toute dette envers notre nature propre. C'est ce qui a été lu par Yvan, je crois, Romains 8, verset 12, au tout début de Romains 8, 12 à 23. Nous sommes libres de toute dette envers notre nature propre. Cette libération acquise par Christ et dont nous devenons bénéficiaires par la foi en lui nous permet par l'Esprit de faire mourir les manières d'agir du corps. Romains 8, 13. Conduits par l'Esprit, nous sommes libérés de la crainte qui s'attache à un esprit d'esclavage, ayant reçu un esprit d'adoption. Nous sommes libres parce que nous sommes les enfants du Créateur. Nous avons un esprit d'adoption et non d'esclavage. Nous ne appliquons pas des règles. Nous obéissons à notre Père. Ça fait partie de notre liberté parce qu'on veut faire avancer son royaume dans nos vies, dans la vie de nos proches et en général. Alors, conduits par l'Esprit, nous sommes libérés de la crainte qui s'attache à un esprit d'esclavage, ayant reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa ». Étant enfants de Dieu, ses héritiers et les co-héritiers de Christ. Ainsi donc, renonçant à tout esprit d'esclavage, nous nous attachons plutôt à l'esprit d'adoption, nous rappelant notre identité d'enfants de Dieu, d'héritiers de Dieu, de co-héritiers de Christ. Nous choisissons librement et de tout cœur de ne plus mettre nos membres au service du péché comme instrument d'injustice, mais d'agir en instrument de justice. Cet évangile et la libération de toute condamnation produit chez ceux qui l'acceptent l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, Romains 5. Réconciliés avec Dieu, nous sommes passés du règne de la mort et de la domination du péché au règne de la faveur imméritée de Dieu. Colossiens 1 nous dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La liberté dont nous bénéficions se rattache à notre appartenance à Dieu et à notre appartenance au royaume de notre Créateur, du Maître de l'univers. Donc, j'ai traité les quatre premières questions. Par qui avons-nous été libérés? Comment avons-nous été libérés? De quoi avons-nous été libérés? Vers quoi avons-nous été libérés? Il reste deux questions. Comment mesurer notre liberté? Ou suis-je libre? Comment mesurer ma liberté? Et comment reconquérir le territoire perdu? Ou comment pourrais-je être libre? Ou comment pourrais-je devenir libre? Jésus dit en Matthieu 11, 28 à 30, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. J'aimerais vous suggérer ceci. Dans la mesure où nous n'expérimentons pas ce repos dont parle Jésus, et dans la mesure où nous trouvons lourd le fardeau que nous devons porter, nous faisons face aux limites de notre liberté. Voici la réponse à la question « Comment mesurer ma liberté ?» ou « Suis-je libre ?» Cela conduit à la question suivante « Comment reconquérir le territoire perdu en matière de liberté ?» Ici, c'est toujours des synthèses dans mes mots, mais mes mots inspirés de la Bible du Sommeur combinés à la seconde 21, qui, en Matthieu 11, 29, nous lisons dans la Bible du Sommeur l'expression « se mettre à l'école de Jésus ». Dans la seconde 21, « recevoir ses instructions ». Alors, « se mettre à l'école de Jésus » et recevoir ses instructions, ça veut dire quoi? Bien, quand je regarde Matthieu 11 dans son contexte global, premièrement, c'est de reconnaître Jésus comme le Messie. Matthieu 11, 2 à 19. C'est aussi changer radicalement sa manière de vivre. Je tire ça de Matthieu 11, 20 à 24. Ce changement radical de façon de vivre porte sur le renoncement à certaines pratiques et sur l'adoption d'un mode renouvelé de pensée. Parce que nos pensées intimes ne sont pas moins importantes que nos actes externes comme territoire de changement, comme territoire de repentance. Là, ici, je voudrais lire avec vous quatre passages dans ma Bible du Sommeur ici. Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler. Et nous sommes dans la question comment récupérer le territoire perdu de notre liberté. Je ne m'adresse pas à des gens ici qui vivent de façon évidente dans des styles de conduite condamnés par les Écritures. Et ça n'a pas été mon cas non plus depuis 1977. Mais ça m'a pris 30 ans avant de comprendre certaines des choses que je vous ai dit ce matin et que je suis en train de développer maintenant. Alors, ce n'est pas tout, mais c'est très important. Donc, Romains 12, verset 2. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, il y a quatre versets que je veux vous lire. Et quand je dis que ça a pris 30 ans, c'était en 2008 que j'ai connu une réappropriation majeure de ce qu'est la vie chrétienne. On ne sait pas, cette semaine, en préparant le message, là, ce dont je vous parle. Là. Alors, Philippiens 4, verset 8, un verset qui est très connu, mais que je veux ramener à notre mémoire en ce moment. « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Le passage suivant. Éphésiens 4. Là, je fais une petite tricherie, là, je résume parce que c'est un passage un peu long, alors je résume. La vie en Christ consiste, verset 23, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Ça, je vous lis mot à mot, le verset 23, c'est le contexte que j'ai résumé. La vie en Christ consiste, verset 23, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Dernier verset que je voudrais lire, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, qui, pour moi, constitue une clé intéressante et importante pour reconquérir le territoire perdu de liberté dans nos vies. 1 Corinthiens 10, 3. « Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » Ce qui nous prépare maintenant à lire la petite synthèse que j'ai écrite ici. Comme Paul, c'est une synthèse applicative et non pas interprétative. C'est-à-dire que je prends ce passage-là et je me l'applique. Mais ce passage-là dit principalement autre chose que l'application que j'en fais. C'est important. Vous pouvez accepter ou non ce que je vous propose. Mais comme Paul renversait les faux raisonnements chez ceux à qui il prêchait l'Évangile, parce que c'est ça le contexte de 2 Corinthiens 10, nous devons combattre le mal qui cherche à envahir l'univers de nos propres pensées. Pourquoi juste les autres? Nos pensées sont un territoire de combat pour conserver notre liberté. La liberté des nègres, c'est comme ça qu'on en parlait aux États-Unis, elle a dû être conservée parfois à coup de vie perdue. Alors, il y a un territoire de combat dans nos pensées et nous devons combattre le mal qui cherche à envahir l'univers de nos pensées. Ça touche autant les pensées en grossière opposition à l'esprit, comme en opposition à Philippiens 4 que nous venons de lire, à Galates 5 que vous avez étudié le mois dernier sur la liberté et la marche par l'esprit. Mais ça touche aussi les pensées qui dévient à l'égard de la vérité que nous apprend l'Évangile. Par exemple, les pensées qui s'attaquent à notre identité de fils et d'héritier en Christ. Alors, c'est facile à comprendre. On a une pensée tordue manifestement contre tout ce que les Écritures enseignent. Et là, on se dit, je suis pourri. Puis c'est la table du Seigneur un matin, j'y vas-tu? C'est ça qu'on fait. Je suis un héritier, je suis un fils. Et des pensées comme ça doivent être combattues par « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te remercie d'être mort sur la croix pour ça. Puis Seigneur, je marche avec toi. » Fait que là, la pensée, tu n'es plus dedans, là, tu es ailleurs, tu es avec Dieu. C'est ça, moi, que je veux dire ici, par combattre. Pas se vautrer dans la culpabilité. Parce que ça n'a rien. Moi, ça ne m'a jamais rien donné pendant 30 ans. Et depuis 2008, je ne suis plus dans la culpabilité. À l'occasion, oui. Jamais on deviendra impeccable dans quoi que ce soit. Alors, selon la compréhension que j'ai des Écritures et mon expérience de vie chrétienne, il n'existe pas de liberté sans confession immédiate. Comme une douche. Hein? On a pris une douche quand on s'est converti, mais il ne faut pas que ça soit la seule douche qu'on prend. Mais la douche, c'est tous les matins, puis je dirais que la confession, ce n'est pas tous les matins. On se lave les mains régulièrement, tout le long de la journée, quand il y a quand sont les salis. C'est ça. Selon ma compréhension, il n'existe pas de liberté sans confession et repentance. Il ne faut pas rester non plus dans ça. Hein? Pas de repentance sans obéissance, pas d'obéissance sans le travail de l'esprit dans nos vies. On n'est pas capable de ça. Et là, je prends ça de Romains, de Galates 5. Nous ne sommes plus obligés de vivre comme des personnes livrées à elles-mêmes, car nous ne sommes plus sous la domination du péché. Romains 3. Nous pouvons vivre notre liberté en Christ, laissant l'Esprit diriger nos vies, comme la libération initiale du péché est par la foi. C'est sur cette même base de la foi qu'il nous est possible de se laisser diriger par l'Esprit. J'ai terminé. J'aurais une petite prière à faire si j'ai le temps de la faire. Elle durerait une demi-minute. On termine avec la prière? OK. Alors, j'aimerais que vous m'accompagniez pour remercier Dieu parce qu'il agit dans nos vies. C'est la même prière que tantôt, mais en remerciement. Je te remercie, Père, de nous rappeler que en ton Fils Jésus-Christ, nous sommes libres pour t'obéir en résistant au mal et en nous attachant au bien. Merci d'éclairer notre intelligence pour que nous identifions et éliminions ce qui, dans nos vies, fait obstacle à cette liberté qui, en Christ, nous appartient de droit. Nous acceptons ton invitation à nous détourner des manières de penser, de faire et d'être qui sont discordantes avec l'esprit de liberté qui vit en nous. Ce matin, nous te disons, Seigneur, que nous voulons écouter ta voix et revenir à toi sur ces territoires de nos vies que nous avons laissés envahir par les forces s'opposant à la liberté. Liberté acquise pour nous qui avons placé notre confiance en lui. Amen.